Oui, c'est une bonne chose que les enfants puissent être présents, les grands-enfants, parce que je pense que c'est un thème qui peut les intéresser aussi, en tout cas qui les concerne. Voilà. Bon, Nathan, il se réjouissait de ne pas avoir à entendre son papa, mais c'est raté. Merci, Michel. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Voilà, ça fait du bien de vous voir, de vous revoir. Alors, c'est la deuxième fois que je viens dans votre église. Finalement, Nathan est venu plus de fois que moi, parce que c'est sa troisième fois. Et quand je préparais le message pour ce matin, je me dis, mais la dernière fois que je suis venu, donc la première fois que je suis venu, sur quoi j'ai prêché? Puis j'ai pas cherché longtemps, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Mais j'ose pas vous poser la question, ce serait trop dangereux. Voilà. En tout cas, ce matin, effectivement, on va parler du thème de la famille et puis de la transmission. Alors, les salutations de mon pasteur, donc du pasteur principal de l'église d'Yvetot, donc le pasteur Gilles, que vous connaissez bien, qui est déjà venu plusieurs fois et puis qui pense à vous et puis qui parle régulièrement de vous aussi. Comme il a été dit, il revient donc d'un court séjour aux États-Unis où il y a une rencontre hommage pour Jean-Paul Engler. Je crois que plusieurs d'entre vous le connaissaient. Josette remercie donc l'épouse de Jean-Paul pour les marques d'affection qui ont été témoignées aussi par votre église. Elle est reconnaissante pour ça. Bon, je pourrais vendre la mèche pour le témoignage que Charles ne vous a pas partagé, mais voilà, on a d'autres sujets, donc on verra. Je vous transmets aussi les salutations de mon épouse Naomi. Elle m'a dit, bah, surtout, tu salues bien tous ceux que je connais. Alors, moi, je connais pas, enfin, je sais pas qui elle connaît, qui elle connaît pas, mais je pense que si elle était là, elle saluerait tout le monde. Alors voilà, je vous salue aussi au nom de mon épouse. Et moi, j'ai la joie aussi de remercier ceux qui ont fait le déplacement pour le barbecue. Parce que c'était sympa de vous avoir. Hein. On a eu Florence et son mari. Alors, quand on dit son mari, c'est parce qu'on a un trou pour le prénom. Je crois que c'est Cédric. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr. Pourtant, j'ai demandé à André tout à l'heure, mais voilà. Donc, voilà, on était heureux que vous soyez là. Charles, il a été modeste. Il vous a pas dit que lui aussi, il a joué. On a joué ensemble au baby-foot, mais contre une équipe qui était trop forte pour nous. Il a joué avec mon fils au tennis de table aussi, au ping-pong. Alors j'ai demandé des infos à Nathan pour savoir quel était le niveau de Charles. Il m'a dit, je pense qu'avec un peu d'entraînement, il doit être très bon parce qu'il fait des coups très spéciaux. Alors il faut s'y remettre, voilà. Voilà, je ne vais pas mentionner tout le monde, sinon voilà, la prédication sera terminée sans qu'on ait dit quoi que ce soit. Mais oui, je vois Jérôme et puis Uno. Je voulais vous remercier aussi publiquement d'avoir accueilli Nathan alors dans votre maison. Voilà, pour qu'il puisse faire son stage dans l'entreprise, parce que voilà, sa passion pour l'informatique a pris un nouvel essor, grâce à vous. Alors, grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais non, non, grâce à vous. On est reconnaissant de ce que vous l'ayez accueilli. Voilà. Et merci vraiment pour votre invitation en tant qu'église, et merci André et Michel voilà, de cette proximité qui se construit. Effectivement, on va se retrouver. Enfin, on se retrouve déjà beaucoup finalement, mais on va se retrouver encore davantage et on va continuer de construire ensemble aussi ces liens de fraternité et puis ces liens de famille. On peut dire ça aussi. L'Église, c'est aussi une grande famille. Ça me permet de dire que ce qu'on va dire ce matin, c'est vrai, on va plutôt parler de la famille biologique, mais pas que. Mais il y a aussi forcément un certain nombre de considérations qui sont en lien aussi avec ce qu'on peut vivre ensemble dans l'Église. Alors, je dis quelques mots de présentation. Voilà, j'ai 50 ans, je m'appelle Jérémy, je suis marié à Naomi, je vous l'ai déjà dit. On a 5 enfants. On a 5 enfants de 23 à 7 ans, enfin bientôt 8. Je dis mais, c'est pas un mais ma grande fille qui s'appelle Faëlle, donc c'est la fille d'un premier mariage de ma femme. Donc, quelque part, je suis son beau-père. Mais comme je m'en occupe depuis qu'elle a 3 ans, bon, bah, j'ai vraiment joué le rôle de papa pour elle, et voilà, et c'est une bonne chose parce que son papa était très éloigné. Je vous dis ça simplement parce que ça, c'est vrai que les familles recomposées, les histoires de famille qui sont compliquées, bah voilà, c'est aussi des choses qu'on peut connaître, qu'on peut toucher un peu du doigt. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis également. Et puis 5 enfants, bon voilà, je sais pas si ça donne un crédit particulier. Mais alors, ce qui pourrait donner un crédit particulier, mais je le dis un petit peu faussement, mais effectivement, je suis conseiller d'éducation, donc ça fait à peu près 25 ans. Alors, je travaille depuis 7-8 ans dans un lycée public, un lycée général. Alors c'est vrai que ça permet d'être au contact de la jeunesse et de voir les problématiques de la jeunesse au quotidien, donc c'est un atout. Je fais partie aussi de différents groupes, chrétiens ou pas, qui interviennent sur des problématiques d'éducation et en lien avec la famille. Voilà. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est qualifié pour parler, pour dire quelque chose. Mais en réfléchissant à ce matin, je me disais, je pensais à Paul qui dit, mais si nous sommes affligés, c'est pour que vous soyez consolés. Et j'ai remarqué quand même une chose, et Dieu nous a parlé dans ce sens-là aussi en tant que couple, à mon épouse et à moi-même, c'est que parfois on est confronté à un certain nombre de difficultés, et puis on dit à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Et bien parfois c'est aussi parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose, c'est parce qu'il y a un appel particulier, c'est que Dieu nous appelle aussi à transmettre quelque chose à d'autres, à pouvoir communiquer quelque chose à d'autres. Il y a des choses qui s'apprennent pas facilement. On peut pas juste en parler comme ça et puis dire bon ben voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, point, pardon, point, point 2, point 3. C'est souvent plus complexe, plus subtil que ça, plus lourd que ça. Et c'est vrai, quand on parle de la famille, à la fois on est tous concernés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi ça ne me concerne pas ce sujet-là. Voilà, quelle que soit notre situation, ça nous concerne. Mais souvent, ça fait aussi appel à des situations qui sont difficiles. Alors j'aimerais pas que vous puissiez penser que voilà, c'est un beau couple, c'est une belle famille avec 5 enfants. Oui, c'est vrai. Grâce à Dieu, on peut le dire aussi. Mais on est aussi une famille qui a traversé, qui traverse des difficultés. Et puis si on élargit à nos parents, à nos grands-parents, ben voilà, les histoires ne sont pas toujours glorieuses. Mais comme la plupart des familles, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que la grâce de Dieu, elle est agissante. Et vous savez, parfois, on pense que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui... Voilà, Dieu pardonne nos péchés, il nous fait grâce. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et je suis sûr que vous le savez déjà, mais parfois, ça ne connecte pas forcément, même si on le sait, c'est que la grâce de Dieu, elle a plein de facettes différentes. Elle a tellement de facettes qu'elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à donner, quelque chose à apporter, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, la grâce de Dieu, elle est agissante, pas seulement pour te pardonner, mais pour t'apporter la provision dont tu as besoin. Ceci étant dit, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de famille idéale. Voilà, je ne voudrais pas que vous vous attendiez à ce qu'on puisse parler d'une famille idéale. La famille idéale, par définition, elle n'existe pas. En tout cas, pas sur cette terre. Et donc, il faut qu'on compose aussi avec un certain nombre de réalités qui sont parfois difficiles à vivre et difficiles à gérer. C'est ce à quoi on est confrontés les uns et les autres. Il y a un thème qui me parle particulièrement et il est déjà très bien engagé, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête des pères et que tous les papas et les grands-pères étaient devant. Mais les grands-pères sont forcément aussi des papas, hein. Vous étiez devant, on était devant ensemble, et puis mesdames, vous vous êtes levées aussi pour prier pour nous, pour nous bénir. Alors voilà, le sujet est très très bien engagé, et c'est une bonne occasion de pouvoir évoquer ce sujet. Et j'aimerais attirer votre attention sur les derniers mots de l'Ancien Testament. Donc dans le livre de Malachie, les derniers mots, donc Malachie 3, versets 23 et 24, il est dit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Vous vous rendez compte, ça, c'est les derniers mots du Nouveau Testament. Et, pardon, de l'Ancien Testament, effectivement. Mais maintenant, on va parler du Nouveau Testament. Les premiers mots du Nouveau Testament. On va lire dans Luc 1, versets 11 à 17. Alors peut-être vous allez me dire, mais non, mais les premiers mots du Nouveau Testament, c'est dans Matthieu. Matthieu 1, verset 1. Eh bien, écoutez, non. Si on regarde plus attentivement, là où Dieu commence à parler, eh bien, c'est dans le premier chapitre de Luc qui raconte des choses qui sont un petit peu avant ce que Matthieu dit. Et alors au verset 11, on va lire les versets 11 à 17, c'est un ange qui parle et qui apparaît à Zacharie, qui se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Vous savez que sa femme était stérile et qu'il désirait un enfant. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Je ne rentre pas dans les détails, mais peut-être vous savez qu'il y a une connexion entre Élie et Jean. Voilà, Jean était animé de l'esprit d'Élie pour le dire comme ça. Il était là pour préparer. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand. » devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera, au verset 16, plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et je voudrais attirer votre attention sur cette nécessité du cœur des pères qui est ramené vers les enfants. Et puis aussi, l'inverse, le cœur des enfants qui est ramené vers les pères. Et vous vous rendez compte que les derniers mots de l'Ancien Testament nous parlent de ce sujet et les premiers mots du Nouveau Testament nous parlent de ce même sujet, de cette réconciliation, de ce cœur à cœur entre les pères et les fils. Et on dit... Est-ce que c'est excessif de dire ça, qu'il y a eu comme un silence de 400 ans entre le livre de Malachie et puis le Nouveau Testament? Mais rendez-vous compte que les derniers mots que Dieu prononce, si on part du principe qu'il y a eu un temps de silence comme ça, les derniers mots que Dieu prononce, eh bien, c'est ramener les cœurs des pères vers les fils et ramener les cœurs des enfants vers les pères. Et les premiers mots, en tout cas une partie des premiers mots qui sont prononcés dans le Nouveau Testament, eh bien, nous parlent du même sujet. C'est dire si ce sujet est d'une importance cruciale. Et il est bien dit dans Malachie que c'est afin que je ne détruise pas le pays. Pourquoi c'est si important qu'il y ait cette réconciliation entre les pères, les fils, entre les parents, les enfants? Eh bien, c'est pour que le pays ne soit pas détruit. Et puis, si on s'attarde un peu plus sur le Nouveau Testament, ce qu'on a lu, eh bien, c'est parce que Dieu se prépare un peuple qui soit bien disposé. Ça veut dire que Dieu veut visiter son peuple, et parce qu'il veut visiter son peuple, eh bien, un élément qui est important, c'est justement que les cœurs des pères reconnectent avec le cœur des enfants. Et c'est pour ça que c'est souligné de cette manière-là. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est-à-dire que Dieu, eh bien, je ne sais pas ce que vous croyez exactement, mais je pense qu'on est sans doute un peu sur la même longueur d'onde si je vous dis qu'on attend une action de Dieu dans notre pays. On s'attend à ce que le Saint-Esprit puisse visiter notre pays, on s'attend à ce que les personnes soient touchées, on pourrait peut-être même employer le mot de réveil, on s'attend à un réveil. Eh bien, si on s'attend à cela, eh bien, on doit aussi être conscient que si Dieu veut nous visiter, eh ben il va y avoir une action particulière sur les cœurs des pères par rapport aux enfants et sur le cœur des enfants par rapport aux pères, parce que c'est ça qui prépare le terrain. Alors, il faut dire que la société dans laquelle on vit, l'environnement dans lequel on est, eh bien, on voit bien qu'il y a des difficultés entre les parents et les enfants et entre les enfants et les parents. C'est certain, ça fait partie de ce qu'on peut observer, de ce que moi je peux observer aussi tous les jours dans mon travail. Et voilà, chacun peut l'observer là où il se trouve. Et pourtant, il y a cet enjeu stratégique majeur, je le dis bien, un enjeu stratégique majeur, que le cœur des pères soit ramené vers les enfants et que le cœur des enfants soit ramené vers les pères. Et vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui nous parle du cœur. On n'est pas dans un concept, on n'est pas dans quelque chose qu'il faudrait comprendre, où on se dit, bah oui, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, oui, je comprends que ceci, que cela. Non, non, ce que Dieu veut faire, c'est toucher notre cœur en tant que parent et toucher notre cœur aussi en tant qu'enfant. Alors, est-ce que, qu'on soit père, qu'on soit fils, qu'on soit mère, qu'on soit fille, est-ce qu'on veut avoir cette ouverture de cœur pour dire, oui, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour que tu puisses le toucher encore comme tout à nouveau. Je comprends que tu veux faire quelque chose. Peut-être j'ai vécu des difficultés, des échecs. Et voilà, quelque part, quand il y a des échecs, quand il y a des difficultés, et qui n'en a pas, on a tendance à se refermer. Le cœur a tendance à se fermer. Mais ce que Dieu demande, c'est plutôt que nous puissions ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur parce qu'il veut travailler nos cœurs et parce qu'il veut les toucher comme tout à nouveau, parce que ça correspond à l'action qu'il veut faire sur notre pays. Et qui dit action dit aussi onction. Quand Dieu agit, eh bien, ça veut dire qu'il y a l'assistance du Saint-Esprit, il y a l'action du Saint-Esprit, il y a l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste aussi pour que nous puissions aller de l'avant sur ces sujets. Notre Dieu, c'est le Dieu des générations. Dieu, c'est le Dieu des générations. Je vous lis quelques versets. Le psaume 33, verset 11, nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » On trouve beaucoup cette expression dans la Bible, de génération en génération. Ésaïe 41, verset 4 nous dit: Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Vous vous rendez compte, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta génération, eh bien tu es une génération, tu fais partie d'une génération qui a été appelée par Dieu dès le commencement. Il n'y a pas de génération sacrifiée, de génération perdue, il n'y a que des générations qui sont appelées par Dieu dès le commencement. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, on cite souvent ce verset, et la suite nous dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » La gloire pour Jésus dans toutes les générations. Et le psaume 145, verset 4, nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Alors bien sûr, on pourrait multiplier les références, ce n'est pas le but, mais si vous regardez dans la Bible la question des générations, vous verrez qu'il y a de multiples références sur cette question. Dieu est l'auteur, le créateur des générations. Il fonctionne avec les générations. Il les appelle toutes et chacune. Et je vous laisse imaginer que quand on sera au ciel, tous ensemble, ce n'est pas seulement tous les peuples, toutes les nations qui seront rassemblées devant lui, mais c'est aussi toutes les générations. On sera tous ensemble, toutes les générations seront réunies, rassemblées devant Dieu. Et la gloire, la louange doit lui revenir dans toutes les générations. Et alors quand on réfléchit à la question des générations, eh bien, quel que soit ton âge, il y a toujours une génération qui t'a précédé, et il y a toujours une génération qui te suit. Et alors le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une fracture entre les générations? Si le cœur des pères n'est pas tourné vers les enfants, et si le cœur des enfants n'est pas tourné vers les pères, c'est comme s'il y avait une rupture dans ce qui doit se faire. Et c'est pour ça que lorsque Dieu veut agir, eh bien, il va travailler pour que cette rupture soit comblée, pour qu'il y ait la réconciliation qui agisse, pour qu'il y ait ce retour des cœurs, pour qu'il y ait cette, je vais le dire comme ça, cette réunification des cœurs. Et dans le monde, on l'a dit, eh bien, voilà, les générations ne se comprennent pas, ne se comprennent plus, et bien souvent s'affrontent. Qu'en est-il dans l'Église? Et qu'en est-il dans ma famille, dans ta famille? Dans ma propre maison, dans ta maison, comment est-ce que ça se passe entre les générations? Et encore une fois, cette question du lien entre les générations, de la succession et du cœur d'une génération tournée vers les autres générations, eh bien, c'est un enjeu stratégique majeur. Et ici, eh bien, c'est en grande partie, pas seulement, pas que, comme disent les plus jeunes, mais pas que, mais c'est la question de la transmission qui se pose. Dans Joël 1, versets 2 et 3, il nous est dit « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. » Et voyez, il ne s'agit pas seulement de deux générations, il ne s'agit pas seulement des parents et des enfants. Mais il s'agit au moins de trois générations, c'est-à-dire les grands-parents, les parents et les enfants, et donc les petits-enfants par rapport aux grands-parents. Et j'aimerais attirer votre attention, moi je ne suis pas encore grand-parent, sans doute ça va finir par arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Mais j'aimerais attirer votre attention, si vous êtes grand-parent, et je sais qu'il y a des grands-parents, j'ai oublié le prénom, est-ce que ça serait Chantal ? Julie, voilà, j'ai tout faux. Mais là, il y a trois générations qui sont représentées, c'est ça, hein ? C'est bien ça. À une période, dans mon église, dans ma famille, on était quatre générations. Il y avait ma grand-mère qui était présente dans l'église pendant quelques mois, quelques années, vers la fin de sa vie. Et c'est grâce à elle que le salut est entré dans notre famille. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un oncle, quand il était bébé, il était très malade et c'était une maladie incurable. Et Dieu l'a guéri. Et c'est comme ça que Dieu est entré dans notre famille. Ma grand-mère, eh bien, j'ai envie de vous dire, elle était chrétienne, c'est vrai, hein, maintenant elle est décédée. Elle a suivi Jésus comme ça, un peu de loin, voilà. Mais ma maman a suivi davantage. Et puis, j'ose pas dire ça, mais peut-être que la génération d'après, la génération dont je suis, eh bien, on va encore plus loin. Et moi, j'espère que mes enfants vont encore aller plus loin. Voilà. C'est pas simplement une question de famille, vous comprenez, mais il y a une force quand les générations sont rassemblées, et quand on est trois générations, c'est beau de vous voir ensemble, je ne savais pas que vous alliez vous asseoir comme ça l'un à côté de l'autre, mais c'est bien. Eh bien, vous voyez, on n'est pas juste dans une logique parent-enfant, ça va plus loin que ça. On est ancré dans quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus profond. Parce que à partir du moment où il y a trois générations, et j'attire votre attention par exemple sur le fait que Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Trois générations. Comme s'il fallait trois générations pour que vraiment les choses soient effectives, soient concrètes, soient établies, soient ancrées dans le réel pour que ça apporte un changement. Et dans la parole, il est souvent question de transmettre aux enfants et aux enfants des enfants. C'est-à-dire, là encore, on est sur trois générations. Et j'attire votre attention sur le fait que, si je prends mon exemple, mais ça marche avec chacun d'entre vous, je suis le seul à pouvoir parler à mes petits-enfants de mes grands-parents. Mes petits-enfants, je vous ai dit, j'en ai pas encore. Mais quand j'en aurai, il me reviendra de pouvoir leur parler de mes grands-parents. Et voilà, ça fait partie de leur lignée, de leur destinée. Et vous savez, parfois, je me dis, mais c'est compliqué parfois d'expliquer l'histoire de famille. Pourquoi c'est compliqué? Parce que souvent il y a des drames, souvent il y a des choses qui peuvent être terribles. Pas que, bien sûr, il y a des bonnes choses, heureusement. C'est pour ça qu'on est là. Mais il y a des choses qui sont difficiles à partager. Alors bien sûr, on ne peut pas partager n'importe quoi, n'importe comment, et puis à n'importe quel âge. Mais je crois que c'est important de connaître l'histoire de famille, de savoir comment les choses se sont passées, les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes. De savoir aussi quelles ont été les difficultés de la famille. Et je crois que souvent, on fait beaucoup plus de mal à ne pas vouloir informer, partager avec la génération qui vient, eh bien, ce qu'on a vécu de bon comme ce qu'on a vécu de moins bon. Et c'est important, ça, parce que, vous savez, c'est assez étonnant de lire dans la Bible que on voit tous les défauts, toutes les failles, toutes les choses qui ne vont pas, qui sont parfois terribles, des grands personnages de la Bible, eh bien la Bible ne nous cache pas tout ce qui n'a pas été. Et on a besoin de savoir aussi tout ce qui n'a pas été. Bien sûr, on a besoin de savoir ce qui a été, mais on a aussi besoin de savoir ce qui n'a pas été. Vous savez, parfois, il y a des secrets de famille, et les secrets de famille, ça fait beaucoup de mal. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire face à un secret de famille, de faire face à quelque chose qui n'a pas été dans la famille. Mais je crois que ça fait encore plus de mal et que c'est encore plus compliqué quand les choses restent cachées. Alors bien sûr, on ne va pas expliquer à un enfant de 3 ans des drames qui se sont passés dans la famille, mais il y a un âge, il y a une manière de faire, mais il ne faut pas rester comme ça caché dans le secret. Je crois que c'est quelque chose qui détruit les familles. Alors encore une fois, comme chacun d'entre nous, je suis le seul à pouvoir parler à mes futurs petits-enfants de mes grands-parents. Mes petits-enfants, ils verront jamais mes grands-parents. Mais moi, je les ai vus, je peux leur en parler, je peux leur dire un peu leur histoire, je peux leur dire d'où ils viennent. Et c'est important de savoir qu'on est ancré dans une succession des générations. Parce que je crois que ça permet de rendre humble, parce qu'on sait qu'il y avait une génération avant nous, il y a une génération après nous. Alors certes, on a notre rôle à jouer, donc ça nous responsabilise, mais en même temps, on n'est qu'un maillon dans cette succession. Et je crois que ça nous aide à avoir un bon positionnement, c'est-à-dire à la fois à réaliser qu'on a une place, on a un rôle à jouer, chaque génération doit mener ses guerres, on voit ça dans la parole de Dieu, chaque génération a ses défis à remporter, mais en même temps, eh bien voilà, on est conscient qu'il y a une génération avant nous, il y a une génération après nous, et on se situe, eh bien, dans cet entre-deux. Alors cette question de la transmission, je vous propose qu'on puisse lire ensemble dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. Voilà ce que ça nous dit, Deutéronome 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. La pratique, c'est concret. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Trois générations, on retrouve ça dans beaucoup d'endroits. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Hein, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voulez vivre vieux, mais voilà, ça nous en parle. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de mettre en pratique, afin que tu sois heureux, je ne sais pas si vous souhaitez être heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce qui est dit ensuite. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est cet accent encore qui est mis sur le cœur, sur l'amour. Et à commencer, j'ai envie de dire, par l'amour de Dieu. Et nous, on apporte une réponse à l'amour que Dieu nous porte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les commandements, ce n'est pas fait pour qu'on observe des règles, mais c'est fait pour transformer notre cœur. Vous savez, Dieu ne poursuit jamais comme objectif qu'on puisse respecter des règles. Et en tant que parents, on ne devrait pas non plus avoir cet objectif-là. En tout cas, pas seulement que nos enfants respectent des règles. Mais ce qu'on doit viser, c'est la transformation du cœur. Et ce que Dieu vise toujours dans nos vies, ce n'est pas qu'on soit, je mets des guillemets, mais des bons chrétiens qui font des bonnes choses, qui respectent bien les règles, mais c'est que notre cœur soit touché et que notre cœur soit transformé. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et je ne m'étends pas, peut-être on pourra en reparler cet après-midi, mais vous voyez, il y a des choses très concrètes. La transmission, ça se fait dans les maisons. C'est très concret, c'est au quotidien, c'est pratique, c'est du vécu. Et puis, il nous est dit aussi, c'est quand on va en voyage. C'est-à-dire, peut-être c'est les vacances, c'est les trajets, c'est les déplacements. Alors moi, je suis très heureux d'avoir Nathan avec moi ce matin. Bon, ben, je me dis, c'est une occasion de partager, c'est une occasion de transmettre. Voilà, on a 2 heures en voiture pour venir, 2 heures, peut-être un petit peu moins, 2 heures pour repartir. Bon, ben voilà, on a du temps pour partager, pour échanger, pour transmettre aussi quelque chose. Et c'est des temps importants. Et comme il ne peut pas descendre de la voiture, ben, si j'ai quelque chose à lui dire, il est obligé de m'écouter. Et puis, pareillement, si lui, il a quelque chose à me dire, c'est moi qui conduis, je pourrais arrêter la voiture et sortir. Mais bon, en général, on ne fait pas ça. Ça arrive, mais en général, on ne fait pas ça. Mais vous voyez, c'est des moments qui sont précieux, les moments de déplacement. Peut-être les 10 minutes que tu fais le matin pour accompagner ton enfant à l'école, en voiture ou à pied, je ne sais pas. Peut-être que c'est un moment important où tu peux semer quelque chose. Et là, il nous est parlé du matin, il nous est parlé du soir, les histoires du soir. C'est important. Moi, je n'en raconte pas beaucoup à mes enfants, mais je les fais ponctuellement. Et puis, mon épouse aussi le fait ponctuellement. Et ça, c'est des moments privilégiés. Alors, c'est compliqué parce que souvent, on est fatigué le soir. On se dit, tiens, on va coucher les enfants. Et puis, mais voilà, parfois, il faut faire l'effort et se dire, mais voilà, c'est une occasion pour transmettre. Peut-être que aussi le matin, tu transmets une petite chose, une pensée, juste un mot, un encouragement. C'est quelque chose qui va te suivre toute la journée. Parfois, il y a des choses qui nous interpellent le matin. Ça peut être une musique, et puis ça te suit après toute la journée. Vous voyez, c'est des choses pratiques, c'est des choses concrètes, qui sont vécues dans le quotidien, et qui parlent aussi de l'exemple qu'on donne et qu'on apporte. D'ailleurs, on n'est pas dans quelque chose qui est abstrait, mais on est dans quelque chose qu'on essaie de vivre. Je dis bien on essaie, parce que ce n'est pas facile, mais on essaie de rendre les choses concrètes. Et c'est important de ne pas vivre sa foi de manière cachée. Moi, je suis quelqu'un d'un peu pudique, je peux dire ça comme ça, et je ne vais pas m'afficher parce que je prie ou parce que je fais ça, mais parfois, j'essaie quand même de montrer à mes enfants ce que je fais, ou de leur dire, pour que ça ne soit pas abstrait pour eux, qu'ils sachent comment ça se passe, où ça se passe. Et vous savez, parfois, on n'ose pas dire les choses, ou on reste caché, mais nos enfants ont besoin d'avoir des modèles qui sont concrets, qu'ils peuvent voir, et éventuellement se joindre à nous. Moi, j'ai essayé plein de choses en la matière, bon, voilà, je pourrais plus longuement vous parler de tout ce qui n'a pas marché que de ce qui a marché. Mais il n'empêche, on essaye et on veut être ensemble, on veut construire quelque chose. Et on est dans quelque chose qui est concret. On essaie d'être dans quelque chose qui est concret. Et puis, on parle aussi de ce qu'on vit. On témoigne. C'est ça, le témoignage. C'est d'abord dans la famille, voilà, de dire un peu ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. Et ça, c'est important. Et ma femme fait beaucoup ça avec les enfants. Presque tous les matins, donc elle prend un temps autour de la Bible. Alors, on est un peu aidé hein, parce qu'on fait l'école à la maison, donc voilà, on n'a pas le même timing que tous les enfants qui vont à l'école. On n'a pas un timing si différent, mais c'est un petit peu différent. Mais elle commence par ce temps autour de la parole, et c'est tellement précieux et c'est tellement beau. Moi, il m'arrive de participer ou d'écouter. Je me dis, ah ouais, c'est des bonnes idées ça pour des messages. Enfin, vous voyez, je m'enrichis moi-même. Hier matin, on était ensemble et j'ai découvert quelque chose dans la parole. Alors, je ne commence pas à vous le partager, sinon on va être hors sujet. Mais je me dis, ouais, Seigneur, tu m'interpelles. Et c'est tellement intéressant de voir des enfants, 7, 8 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils se posent comme question. Mais c'est concret, vous voyez. Et ça, c'est important, que ce soit très concret, que ce soit des choses qui sont visibles, qu'on peut toucher. Alors ça, c'est le côté transmission. Mais je ne vous disais pas que. Parce que la Bible, C'est intéressant parce qu'il y a un équilibre toujours. Parce que vous voyez, quand on est plus âgé, plus aîné, qu'on a des enfants, on veut transmettre. Et alors, des fois, on fait des efforts, on dit comment je vais faire pour transmettre, tout ça. Il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate. Mais parfois, ce qui est difficile, c'est que on essaie de transmettre à des personnes qui ne sont pas motivées pour recevoir. Et ben, du coup, au bout d'un moment, on peut se lasser. Mais oui, la Bible, elle est très équilibrée et très intéressante parce que je vous lis par exemple ce qui est écrit dans Deutéronome 32, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Job 8, verset 8 dit, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Et vous voyez, ce n'est pas seulement les aînés qui doivent transmettre, bien sûr, c'est leur responsabilité, mais c'est aussi les plus jeunes qui doivent s'intéresser et qui doivent demander, qui doivent interroger. Et voilà, moi je bosse dans l'éducation nationale, je sais bien que quand un enfant ou un élève pose une question, eh bien là, c'est intéressant de lui apporter une réponse parce qu'il se pose une question. Mais quelqu'un qui ne se pose aucune question, quel que soit son âge, hein, ça, c'est vrai aussi pour nous les adultes, hein, ou les personnes âgées, si on ne se pose aucune question, bah, on s'en fiche de la réponse, on n'est pas attentif à la réponse. Et parfois, on voudrait répondre à des besoins que personne n'a exprimés. Nous, on repère bien qu'il y a un besoin, qu'il y a besoin d'apporter une clarification, qu'il y a besoin d'enseigner sur tel ou tel sujet. Mais comme il n'y a pas de demande, comme il n'y a pas d'interrogation, bah, ça fait flop. Et oui, j'aime cet équilibre entre la responsabilité de la transmission, mais la responsabilité aussi d'interroger ceux qui nous ont précédés. Et ce n'est pas seulement les pères, c'est aussi les vieillards. Vous voyez, encore une fois, on est dans une logique où il y a plusieurs générations. Interroge tes parents, interroge tes grands-parents. Quelle est l'histoire de la famille? Comment est-ce que Dieu a agi dans la famille? Quels sont les problèmes qu'on a rencontrés dans la famille? Vous savez, parfois, des problèmes qu'on a dans notre propre vie, un jour on comprend que dans la famille, il y avait telle difficulté et on réalise que c'est pour ça qu'on a ce problème-là. Que ça vient d'avant. Moi, je pourrais vous raconter plein de choses qui viennent d'avant. Ce n'est pas une manière pour moi de me déresponsabiliser de ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais simplement, parfois, on a besoin de savoir ce qui s'est passé parce que c'est quand on sait que Dieu peut agir et qu'on peut collaborer avec lui pour passer des caps. Je ne suis pas habitué à ces deux micros. Pour passer des caps, et puis voilà. Mais si on ne sait pas, et bien souvent, ben, on reste enlisé dans quelque chose qui nous détruit à petit feu, voire plus rapidement. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. C'est quel regard tu portes sur la génération qui suit? Et quel regard tu portes sur la génération qui t'a précédé? Peut-être la génération qui suit, tu te dis, ils sont perdus, ils n'écoutent rien, ils ne comprennent rien. Non, ça ne vous arrive pas de parler comme ça des plus jeunes? Ah, mais notre société parle comme ça en tous les cas. Et moi, c'est des choses que j'ai entendues dans l'Église aussi. Ils sont perdus, ils ne comprennent pas. C'est tellement compliqué, ils ne vont jamais s'en sortir, ils ne vont pas y arriver. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que la génération qui suit nous remet en question de bien des manières. Elle nous bouscule, elle nous montre qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Que dans notre parcours, il y a des choses qu'on a réussies, mais il y a des choses qu'on n'a pas réussies. Les enfants, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Des fois, ils disent des trucs, on aimerait qu'ils ne les disent pas, mais des fois, ils ont raison, quoi. Ils n'ont pas toujours raison, hein. La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants, loin de là. Mais des fois, ils nous remettent en question sur des choses, mais si on est honnête, on est obligé de dire, ah oui, c'est vrai. Alors, ça nous remet en question sur ce qui n'a pas été. Est-ce qu'on a cette souplesse, cette humilité d'entendre, de se corriger, de progresser? Mais tout en continuant d'exercer notre responsabilité, c'est-à-dire tout en continuant de se dire, mais j'ai à transmettre quelque chose qui est important, un héritage, quelque chose qui a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est pour ça que transmission, interrogation, c'est parce qu'on est sur quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et on aimerait nous faire croire que ça n'a pas de valeur, mais ça a une valeur tellement importante. Et alors, si tu es fait partie des générations plus aînées, voilà, quel regard tu as sur la génération qui suit, est-ce que ton cœur, parce qu'on revient toujours au cœur, est-ce que ton cœur est tourné vers la génération qui vient, qui est là? Et puis alors, la génération, quel regard tu portes sur la génération qui t'a précédé? Donc là, je m'adresse à des plus jeunes, Mais peut-être vous êtes comme moi, voilà, moi je suis entre les deux. C'est dire si c'est compliqué, mais la plupart d'entre nous, on est entre les deux, hein. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et même s'il n'y a plus de représentants de la génération d'avant, on est quand même entre les deux. Voilà, on a quand même toujours à voir avec la génération d'avant. Mais bon, quel est ton regard par rapport à la génération qui est avant toi? Ils sont trop vieux, ils sont dépassés, ils ne comprennent rien. C'est à peu près la même chose, vous voyez? La génération qui nous précède, c'est-à-dire qui vient avant, nous remet en question de bien des manières. Elle nous bouscule, elle nous montre des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Oui, c'est pareil. Avons-nous cette souplesse, cette humilité d'entendre, de nous corriger, de progresser, tout en continuant de se dire, mais je vais continuer à avancer. C'est pas facile quand on est remis en question, quand on se réalise qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas facile de continuer à avancer, mais c'est la vie. C'est la vie et il faut continuer à avancer. Parce que tu as un héritage précieux à recevoir. Interroge ceux qui t'ont précédé pour qu'ils ne se perdent pas. Et est-ce que ton cœur est ouvert, je dis bien ton cœur, est ouvert à la génération qui t'a précédé? Encore une fois, c'est le cœur qui doit parler. On doit comprendre cette succession des générations. Une génération succède à une autre, qui succède à une autre, qui succède à une autre. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça depuis que le monde est monde. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses et il a appelé toutes les générations dès le commencement. Et ce que je remarque, voilà, je l'ai dit, j'ai 50 ans, donc ça permet de. Voilà, on est peut-être dans un entre-deux, en tout cas j'aime le croire. Certains qui sont plus jeunes diront non, non, mais il est déjà vieux. Et puis ceux qui sont plus aînés diront oui, il est jeune. Bon, voilà. Mais ce que je remarque, c'est que les plus jeunes dont j'ai pu faire partie, eh bien, ils ont envie de prendre la place et souvent ils veulent prendre la place trop tôt. Mais les plus âgés, eh bien, ils veulent garder la place trop longtemps. Et puis il y a aussi ceux qui, on voudrait leur donner la place, mais ils ne veulent pas la prendre. Il faut les pousser. Voilà. C'est la réalité de la vie, c'est la réalité de tout fonctionnement, de toute organisation et donc même des familles. Et alors, on a besoin de sagesse par rapport à ça. Et une image que j'aime beaucoup, qui est très banale, mais que j'aime beaucoup, c'est que c'est le passage de relais. Vous savez, quand on regarde le 4 fois 100 mètres, passer le relais, passer le bâton de relais, c'est tout un art. Et là, on peut vraiment passer à côté. Voilà, il faut que ça soit au bon moment, il faut que ça soit à la bonne vitesse. Enfin, vous voyez, c'est complexe, c'est quelque chose qu'on travaille. Voilà, bon, enfin, moi j'ai jamais travaillé ça, j'ai jamais fait de 4 fois 100 mètres, mais j'ai vu à la télé, voilà, et puis j'ai vu en vrai aussi, sans doute vous avez vu ça aussi. Et c'est loin d'être facile, c'est loin d'être facile. Voilà, il faut trouver le bon timing. Et ça, c'est un sacré défi, un sacré challenge qui nous est proposé. Je lis encore avec vous Deutéronome 1, verset 39. Il nous est dit, « Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. » Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Et j'aime beaucoup ce verset, et c'est un verset qui m'interpelle, parce que ça nous parle justement de ce qui s'est passé il y a longtemps, quand il s'agissait de rentrer dans le pays promis. Vous voyez, il y a une génération qui n'est pas rentrée dans le pays promis. Et ils disaient de leurs enfants et de leurs petits-enfants, mais ils vont être une proie, ils vont être une proie. Pour l'adversaire, ils vont être une proie, ils vont se faire manger tout cru. Voilà. Et pourtant, eh bien, Dieu est en train de leur dire, mais vous vous trompez lourdement, c'est cette génération-là qui va entrer dans le pays promis. Et vous savez, il faut qu'on fasse attention parce que les défis sont grands, importants. Enfin, les défis aujourd'hui sont vraiment grands, ils sont importants. Et j'ai envie de vous dire, les attaques contre la famille, elles sont nombreuses. C'est une des stratégies que l'adversaire utilise beaucoup, bien sûr, parce qu'il sait que c'est un élément important qui peut bloquer l'action de Dieu dans un pays, la visitation de Dieu dans un pays. Mais vous voyez, c'est important le regard qu'on porte sur la génération qui suit et ce qu'on dit sur la génération qui suit. Parce que tout à l'heure, je vous disais, oui, c'est vrai qu'on parle de génération sacrifiée, on parle de génération perdue, on dit, voilà, on a sauté une génération. Mais il n'y a jamais de génération qui saute, ça n'existe pas. Dieu a appelé toutes les générations dès le commencement. Et on peut avoir bien des raisons de dire ce qu'on dit, mais il faut qu'on apprenne à avoir le regard de Dieu. C'est vrai, là, quand le peuple d'Israël disait, voilà, nos enfants, ils vont devenir des proies, on peut tout à fait comprendre pourquoi il disait ça. Et pourtant, il se trompait lourdement, parce que ce sont ces jeunes-là qui ont grandi, qui sont entrés dans le pays promis. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait qu'il ne faut pas qu'on hypothèque l'avenir. Parce que bien souvent, moi je réalise qu'en tant qu'aîné, on a failli dans la transmission. Et non seulement on a failli dans la transmission, mais en plus, on va faire peser un poids en proclamant des choses sur la génération qui monte, eh bien, qui vont encore alourdir la difficulté dans laquelle ils sont. Et il faut qu'on apprenne à avoir un regard qui est spirituel. On ne nie pas les problèmes, vous savez, je suis bien placé pour les voir au quotidien et être horrifié parfois par beaucoup de choses qui se passent. Mais en même temps, je vois que dans la génération qui monte, il y a des choses qui sont différentes de la génération d'avant. Et je suis persuadé que ce sont... Alors on parle de la génération alpha. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais on n'a pas le temps. Et puis, en plus, je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, il y a une ouverture de cœur pour Dieu dans la nouvelle génération qui n'existait pas avant. Et ça, c'est un élément parmi plusieurs autres. Alors oui, Dieu est à l'œuvre dans cette génération. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Les défis sont importants. Mais il y a quelque chose qui est là, que Dieu est en train de faire. Il ne faut pas qu'on dise autrement. Enfin, il faut qu'on apprenne à ne pas dire autrement que ce que Dieu dit. Et j'ai du travail et nous avons du travail. Mais on a besoin de saisir le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. Un dernier point. Je dis ça, c'est un peu faux, mais c'est pour vous faire croire que j'ai bientôt fini. Mais oui, j'ai bientôt fini. Un point qui me tient à cœur... et qu'on va pouvoir développer cet après-midi si vous le souhaitez. Mais voilà, ça sera ouvert, ce sera un temps de partage. L'idée, c'est aussi de répondre, de réfléchir ensemble et peut-être d'apporter des éléments de réponse, des éléments de réflexion. Un point qui me tient à cœur, c'est un verset qui est bien connu. Proverbe 22, verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est un verset qu'on cite souvent, qui parle de l'éducation des enfants, de la manière dont il faudrait instruire les enfants. Et alors, on peut tirer plusieurs conclusions quand même de ce verset et puis de quelques autres, c'est que l'éducation, ça demande du temps. C'est-à-dire, c'est quand la personne est grande, pour ne pas dire vieille, qu'on peut dire « Ah oui, il a eu une bonne éducation ». Peut-être qu'on peut commencer à dire de moi « Oui, il a eu une bonne éducation ». Mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu une bonne éducation, en tout cas quand j'étais enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éducation demande du temps. Et ce n'est pas quand notre enfant a 15 ans, 20 ans, même 30 ans, qu'on peut dire « Ah oui, ce que j'ai fait, c'est bien ». Ça demande du temps. Ça, c'est le premier point. Mais le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, qui nous engage en tant que parents particulièrement, c'est que dans la manière dont on éduque nos enfants, est-ce qu'on met l'accent sur le cadre éducatif ? Oui, c'est un peu l'éducateur qui parle comme ça. Est-ce qu'on met l'accent sur le cadre éducatif ou sur l'enfant ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un cadre qui existe et puis on applique ce cadre de manière rigoureuse ? Ou alors on se dit, voilà, on va voir comment est l'enfant, on va s'adapter, etc. Dans la version Darby, il nous est dit « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ». Dans la version Chouraki, « Éduque l'adolescent selon sa route ». C'est bien, ça parle aussi des adolescents. Et là, vous voyez, je trouve que la Bible, c'est juste extraordinaire, ce livre. Ça dit « Éduque ». Donc, il y a bien un cadre éducatif. Il faut bien qu'on ait un cadre éducatif. Mais en même temps, il nous est dit « Éduque l'enfant selon sa voie ». Ah, selon la voie qu'il doit suivre. Et alors, tout de suite, ça pose une question. C'est quoi la voie de cet enfant ? C'est quoi la voie qu'il doit suivre ? Alors, j'ai plusieurs enfants. J'ai remarqué qu'ils ne sont pas tous pareils. J'ai même remarqué que certaines choses marchent avec certains. On est content. On fait la même chose avec d'autres et ça ne marche pas. Ah, je ne suis pas le seul à avoir constaté ça. Ça me fait du bien. Mais voyez, c'est intéressant parce que quelle est la voie ? Alors on va se dire, oui, mais la voie, c'est la voie du Seigneur. Ok, ça me va comme réponse, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que c'est quoi la voie du Seigneur pour cet enfant ? Et c'est quoi la voie du Seigneur pour cet autre enfant ? Et alors, il y a cette subtilité de la parole, ou cet équilibre de la parole, qui nous engage. Parce que, bien sûr qu'il faut éduquer nos enfants. Et donc, il va y avoir un cadre éducatif. Et donc, il va y avoir des règles. Et donc, il va y avoir une manière de fonctionner. Mais en même temps, il va falloir que ce cadre ait la souplesse de s'adapter, au moins en partie, à la voix de l'enfant. Mais ce qui est surtout important, et je crois que je vais terminer par ça, c'est que ça nous engage en tant que parents, premièrement, à connaître notre enfant. Parce que si on ne le connaît pas, il n'y a aucune chance qu'on puisse connaître sa voie, la voie sur laquelle il doit marcher. Il faut qu'on apprenne à connaître notre enfant. Alors ça veut dire que bah, si on en a plusieurs, eh bien, ils ne sont pas pareils, on le sait. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes, ils n'ont pas les mêmes appels. Il faut qu'on apprenne à les connaître. Et ça nous engage parce que ça veut dire qu'il va falloir passer du temps avec eux. Et puis ça nous engage aussi sur le fait que même si on passe du temps avec eux et qu'on les connaît bien, peut-être on peut dire ça, eh bien, ce n'est pas suffisant. Parce que celui qui connaît la voix de cet enfant, c'est Dieu. C'est son créateur. Ça veut dire que non seulement tu vas avoir besoin de passer du temps avec ton enfant pour le connaître, mais tu vas avoir aussi besoin de passer du temps avec Dieu pour que Dieu te parle de cet enfant, pour qu'il te le fasse connaître, pour qu'il te fasse connaître son appel, pour qu'il te fasse connaître ses compétences. Et voyez, il y a toute cette subtilité qui fait que ce qu'on va faire avec un enfant, eh bien, c'est pas qu'on remet en question tout le cadre éducatif, mais ce qu'on va faire avec un enfant parce qu'il a cet appel, parce qu'il a cette personnalité, parce qu'il a ces dons-là que Dieu lui a donnés, eh bien, on va faire différemment avec un autre parce qu'il a un autre appel, il a une autre personnalité, il a d'autres aptitudes. Et vous voyez, on a besoin de trouver cette souplesse et cette délicatesse. Alors, est-ce que tu connais ton enfant? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Et qu'est-ce que Dieu te dit le concernant? Et puis après, la question qui se pose par rapport à l'éducation des enfants, c'est « Ok, on veut leur transmettre quelque chose, mais qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ? C'est quoi l'objectif principal de cette transmission ? Et comment est-ce qu'on va leur transmettre ? C'est des sacrées questions. Et vous savez, parfois, je crois qu'on fait un peu fausse route parce que l'objectif principal, c'est qu'ils connaissent Dieu. Et je ne vais pas le développer là maintenant parce qu'il est déjà tard et je vais bientôt m'arrêter. Mais parfois, vous voyez, il y a quelque chose qu'on rate ou dont on n'a pas conscience, c'est que nos enfants ont besoin d'apprendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et parfois, nous, en tant que parents, on est contents parce que nos enfants se comportent bien, ils respectent bien les règles. Et j'ai envie de dire que c'est presque ce qui pourrait leur arriver de pire, avoir la capacité de bien respecter les règles. Parce que du coup, ils vont se dire, mais voilà, je suis quelqu'un de bien, je m'en sors bien, c'est bien ce que je fais. Et puis les parents vont dire pareil, ils vont être fiers de leur enfant. Et je comprends qu'on soit fiers de son enfant parce qu'il fait des bonnes choses et qu'il respecte bien les règles. Moi-même, quand on me complimente sur mes enfants, voilà, je suis content. Mais il ne faut pas qu'on rate le fait qu'à un moment ou un autre, et on pourra en parler davantage cet après-midi, eh bien, il ne faut pas qu'on rate le fait qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'ils réalisent qu'ils sont en incapacité de respecter les règles avec le cœur et qu'ils ont besoin de repentance et qu'ils ont besoin de connaître Jésus, qu'ils ont besoin de Jésus. Et là, un horizon nouveau va s'ouvrir pour eux. Et vous voyez, en tant que parent, c'est un sacré challenge parce qu'il y a comme un paradoxe. La règle, elle est faite à la fois pour être respectée, que nos enfants apprennent à respecter les règles, mais en même temps, elle joue le rôle, comme dans la Bible, hein, la loi, elle est un pédagogue qui nous amène à Dieu, qui nous amène à la grâce. Eh bien, il faut que notre cadre éducatif, eh bien, permette aux enfants de rencontrer la grâce de Dieu et de rencontrer Dieu. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge. Mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Et je voudrais qu'on prenne un temps ensemble devant Dieu. Et je vais faire une sorte d'appel, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je vous propose peut-être de fermer les yeux. Et puis, déjà, s'il y a quelque chose qui t'a touché, qui t'a interpellé, et tu te dis, mais oui, ce point-là, voilà, c'est sans doute des points différents pour chacun. Mais là, je réalise que Dieu me parle. Et que Dieu me dit quelque chose et qu'il y a une réponse à donner, qu'il y a quelque chose à faire. Bah, déjà, s'il y a ça, je veux t'inviter à te lever à ta place. C'est une manière de dire à Dieu, j'ai entendu. Et je vais aller plus loin sur ce point-là, sur cette interpellation-là. Et voilà, si vous voulez vous commencer à vous lever, vous pouvez. Mais je voudrais aussi nous interpeller sur le fait que la Bible, elle dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et on peut se priver de bien des manières de la grâce de Dieu. Et une des manières dont on se prive de la grâce de Dieu, c'est quand on referme notre cœur parce qu'on a, on a connu des difficultés, parce qu'on a connu des blessures. Et on se dit, mais non, mais je ne peux pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop douloureux, et du coup, on se referme. Mais je crois que le Seigneur nous dit ce matin, eh bien, j'ai besoin qu'à nouveau tu puisses ouvrir ton cœur, parce que je veux toucher ton cœur, parce que je veux faire face avec toi aux difficultés. Peut-être tu as connu des échecs, peut-être tu as essayé, et ça n'a pas fonctionné. Et je crois que tous les parents pourraient dire ça. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être même tous les enfants pourraient dire ça. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et voilà, je voudrais t'adresser cette interpellation de dire, ouvre ton cœur, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Et je vous disais tout à l'heure, lorsque Dieu agit, eh bien c'est pas seulement qu'il agit, c'est qu'il y a aussi l'onction de Dieu pour ramener les cœurs des pères vers les fils, pour ramener le cœur des fils vers les pères, pour ramener le cœur des parents, les mères vers les filles vers les mères. Et peut-être tu te dis, mais oui, il y a quelque chose à faire avec ma maman, ou il y a quelque chose à faire avec ma fille, il y a quelque chose à faire avec mon papa. Peut-être même ton papa est décédé, mais tu réalises qu'il y a quelque chose que tu dois aussi libérer, que tu dois dire devant Dieu. Et bien, si tu réalises ça, je veux te proposer aussi de te lever, et c'est une manière de dire à Dieu, mais j'ai entendu. Et je me mets en marche, je me mets en avant par rapport à ça. Et peut-être tu es chargé de transmission d'une manière ou d'une autre, et tu t'es arrêté, tu t'es dit, mais non, mais là, ça marche pas, ça va pas. Et bien, je crois que le Seigneur te dit, il faut que tu reprennes, il faut que tu reprennes le flambeau de la transmission, parce que c'est ta responsabilité. Et moi, je veux t'aider. Et peut-être en tant qu'enfant ou en tant que plus jeune, tu te dis, mais j'ai manqué d'interroger ceux qui m'ont précédé. Et j'ai raté quelque chose. Mais il est encore temps. Il est encore temps de changer cette attitude-là. Voilà, chacun peut répondre dans son cœur. Et quand j'étais dans la louange tout à l'heure, j'avais cette pensée que, sans doute pour certains d'entre nous, eh bien, il y a eu des moments d'incompréhension. Il y a eu des moments de mésentente. Il y a eu des moments de désaccord. Ce qui fait partie de la vie, ce qui, à dire vrai, n'est pas très grave, c'est assez banal. Mais l'adversaire s'est chargé de faire de cela des coupures et des fractures. Et je crois que le Seigneur te dit ce matin, ne reste pas sur cette coupure, ne reste pas sur cette fracture, mais fais face à cette mésentente, à ce désaccord. Ce n'est qu'une mésentente, ce n'est qu'un désaccord, ce n'est qu'une incompréhension. Qu'il n'y ait pas cette rupture entre les générations. Et quand je préparais le message aussi, plusieurs fois j'étais interpellé par cette notion de femmes qui sont seules avec des enfants. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais voilà, je pense qu'il y a sans doute au moins une personne qui est concernée par ça. Et je crois que le Seigneur te dit que tu as besoin de chercher un père de substitution. Ça veut pas dire un autre mari, mais ça veut dire que ton enfant, tes enfants, ils ont besoin d'une figure paternelle. Peut-être tu peux trouver ça dans ta famille. Peut-être tu peux trouver ça dans l'église. Il y a besoin d'un repère. Un peu comme avec Faël, ma fille, qui n'est pas ma fille de sang, mais moi j'ai été son père de substitution. Peut-être on pourrait dire, par exemple, dans la Bible, Élie a joué ce rôle-là un peu pour Samuel. Et pourtant, ce n'était pas quelqu'un, il y avait des problèmes, mais il a quand même joué ce rôle-là. Il l'a introduit dans la présence de Dieu. On pourrait dire que Joseph a joué aussi ce rôle-là pour Jésus. Mais voilà, je crois qu'il y a cette interpellation de dire, mais il y a quelqu'un autour de toi qui peut t'aider et qui peut jouer cette figure aussi paternelle. C'est pas remplacé. Moi, j'ai jamais remplacé le papa de ma fille, mais j'ai pu jouer un rôle qu'elle avait besoin que je joue. Et voilà, je crois que le Seigneur t'interpelle pour que tu puisses regarder autour de toi et voir qui peut être avec toi. Et encore une fois, je dis pas que c'est un autre mari, ça pourrait d'ailleurs, je n'en sais rien, mais une figure paternelle. On va prendre